notre domaine, qui est pour nous important au Centre méditerranéen de littérature orale, c'est la relation de la littérature orale et de l'anthropologie. Hein, donc anthropologie, anthropos, c'est l'homme, hein, et la logie, c'est l'étude de l'homme. Alors c'est un programme ambitieux dans l'anthropologie, c'est presque une globalité de l'homme qu'on a envie de viser. C'est quelque chose qui a plutôt, qui avait, disons, au départ, une tendance à vouloir englober toutes les sciences humaines. Donc c'est une masse de savoir qui est extrêmement importante. Donc on ne va pas voir toute l'anthropologie, mais je pense quand même qu'il faut comprendre un petit peu, pour savoir quel rapport la littérature orale entretient avec cette anthropologie, comprendre un petit peu son histoire. Hein. Et je crois que l'anthropologie, si on veut vraiment commencer à la comprendre, bah, il faut presque remonter à 1492, même peut-être avant, mais surtout là, découverte de l'Amérique, hein, et la confrontation du monde occidental avec des peuples extrêmement étranges, bizarres, qu'on ne comprenait pas, qui n'écrivaient pas obligatoirement, qui étaient dans une oralité, et qu'il a fallu essayer de comprendre. Hein, donc on va dire que l'anthropologie naît déjà avec quelque chose d'essentiel, c'est la confrontation à l'altérité. Hein, c'est ça qui est important à saisir, cette notion d'altérité d'autre, hein, qui n'est pas compréhensible. Alors ça veut dire que dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on est surtout là pour essayer de, entre guillemets, coloniser, prendre possession d'une terre, et progressivement l'anthropologue, qui n'est pas encore anthropologue puisque ça n'existe pas, mais en tous les cas qui fait de l'anthropologie sans le savoir, qui fait de la recherche sur cette altérité, va commencer à essayer de comprendre l'autre, surtout pour créer des outils, hein, de communication, de compréhension, de manipulation et de pouvoir. Ce qu'on va retrouver, je dirais, avec l'anthropologie, presque jusqu'à la période précoloniale. Je ne vais pas vous faire tout un schéma, mais pendant très longtemps, l'anthropologue est souvent au service de l'institution. Il y a la science, mais il y a aussi l'institution. Hein. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans toute une période où les anthropologues ne sont pas toujours fiers d'être, cette relation justement à l'anthropologue au service du pouvoir de l'administration. Sachant que l'anthropologue à l'époque est surtout administrateur et missionnaire, et que la plupart des documents anthropologiques sont des documents qui sont vraiment dans cette optique de comprendre d'autres, mais souvent, hein, pour la curiosité, mais récupérée souvent dans la manipulation. On va aussi avoir de l'anthropologie qui se met en place en Europe, avec la création des États, hein, des États-nations. C'est-à-dire que l'État-nation, qu'est-ce qu'il essaye de faire aussi? C'est de trouver des unités de représentation, d'intelligence d'un peuple dans sa globalité. Puis bien sûr, dans cette globalité, il n'y a pas vraiment d'unité. On s'aperçoit qu'il y a énormément de gens différents. Il y a des Basques, il y a des Languedociens, il y a des cultures différentes qui sont là en présence. Et il va falloir les comprendre pour pouvoir aussi les convaincre d'adhérer à un tout. Hein, donc on commence à avoir des documents sur ces altérités multiples qui se mettent en place. Et dans l'histoire, c'est des éléments qui vont être importants. On va dire que dès le départ, la littérature orale est en jeu. Parce que quand une société n'a pas d'écrit, quand une société n'a pas d'écrit alphabétique, ce qu'on connaissait le mieux, nous, à notre époque, quand les mythes ne sont écrits que sur des couvertures, à partir de logos, hein, des systèmes logographiques, ou à partir d'objets, ou à partir du rituel, pour les décrypter, on essaye de retrouver, en particulier, des paroles qui se répètent, c'est-à-dire des paroles qui sont, redites, objets de variantes. Hein. Et la littérature, bien sûr, par excellence, est une de ces paroles. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a déjà bien vu dans toutes les conférences, la littérature orale, ce sont des objets qui sont semi-fixés. Hein, la plupart du temps, ce sont des récits semi-fixés et qui sont, de ce fait, chaque fois qu'ils sont racontés, objets de variantes. Mais il y a aussi des objets dans la littérature orale, comme les dictons, les proverbes, certaines épopées, qu'on essaye de garder le plus précisément possible, mot par mot. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des objets qu'on essaye de ne pas trop déformer non plus. Donc ça, je dirais que même si on ne connaît pas un peuple, petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des répétitions, qu'il y a des choses qui se ressemblent. Au fur et à mesure qu'on commence à comprendre la langue, et on s'aperçoit aussi que, bien sûr, ce n'est pas gratuit, c'est quelque chose qui n'est pas l'invention d'une personne, mais qui est bien un objet collectif. Et ça, d'entrée, les anthropologues, quels qu'ils soient, vont avoir un intérêt pour cette matière, parce que ça reflète bien, hein, ça reflète bien, non peut-être pas dans un premier temps, on n'a pas cette préhension de la complexité de la société, mais on sent bien que là derrière, il y a une image de la société qui est donnée, hein, que si elle est aussi portée dans le collectif, il y a quelque chose de vraiment essentiel et d'important. Donc on va dire que tout ça, ça va avancer tranquillement. On ne va pas le temps de faire tout le détail. Ce qui m'importe, c'est d'aller un peu plus loin. Et on va arriver avec un monsieur important dans le domaine de l'anthropologie. C'est quelqu'un qui s'appelle Lewis Henry Morgan, hein, qui aux États-Unis va commencer à faire un travail un petit peu plus systématique d'études des sociétés amérindiennes, hein, et en particulier des Sénécates, qui sont des Iroquois. Hein, il va commencer à faire un travail un petit peu d'investigation. Il va s'approcher, non plus pour essayer de se dire ce sont des sauvages, mais pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils installent de différent. Hein. Et petit à petit, ben, il va commencer à être un peu de façon systématique, à étudier, voir comment ils organisent leur parenté, hein, voir comment ils organisent leur lieu de résidence, voir comment leurs rituels sont en train de se faire. Et puis il s'aperçoit bien sûr qu'on n'est pas du tout dans le système occidental habituel, mais qu'il y a une cohérence. Hein. Alors, pour nous, ça nous paraît tout à fait évident aujourd'hui, mais il faut penser qu'on est dans cette époque où ce qu'on appelle l'évolutionnisme est en jeu. C'est-à-dire que c'est une époque où on pense que toute tribu primitive, comme on disait à l'époque, ils sont en l'état d'enfance de la civilisation. Hein. Un jour, quand ils seront grands, ils deviendront comme nous. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'objet de cette période. Et ce fameux Henry Morgan, Lewis Henry Morgan, dans son travail, va démontrer que, ben non, il y a aussi des choix, et que c'est peut-être d'autres structures. Il va d'ailleurs lancer une enquête sur le plan international, auprès de gens qui connaissent bien les Esquimaux, qui connaissent bien d'autres... Et s'apercevoir que, bien sûr, il y a d'autres systèmes d'organisation qui existent et que donc ces sociétés sont peut-être à prendre en considération pour elles-mêmes et non pas comme des sociétés en devenir qui sont dans des copies qui sont dans l'irrationnel. Ils commencent à mettre en doute notre système dogmatique de l'Occident. Hein, il n'y a que l'Occident comme... C'est les plus évolués, les autres évolueront plus tard. Hein. Donc l'évolutionnisme avec lui commence à en prendre un coup. Ça commence à devenir un espace un petit peu de remise en cause de notre façon d'envisager le monde. Et lui, pour lui déjà aussi, tout le système de la littérature orale va être important parce qu'il va lui permettre, en captant des mythes, hein, il va mettre des récits en relation à des rituels, il va commencer à comprendre un petit peu tout un imaginaire, tout un espace de cohérence, tout un espace de mise en place. Hein, et on s'apercevra que le mythe, à partir de lui, mais tout au long du parcours, est un lieu vraiment essentiel, on le retrouvera même encore chez Lévi-Strauss, et surtout chez Lévi-Strauss, est un lieu essentiel pour comprendre une communauté et comprendre son organisation, d'une certaine façon. Hein. Donc on va dire qu'il est, c'est quelqu'un qui va remettre en question, il va se dire, bon, d'accord, il y a un père et une mère, mais quand il y a un père et une mère, il y a autre chose que du rapport biologique, il y a aussi du rapport culturel, il y a du rapport de représentation, hein, d'un système. Et à partir de là, il faut peut-être changer de position, il faut peut-être voir autrement comment ça se passe. Donc ça avance. Alors tout ça, je vais vous donner on va dire des grandes tendances de l'anthropologie. Souvent, elles ne sont pas chronologiques. Hein, il va y avoir des résistances, bien sûr, il y a des partis pris qui vont rester très longtemps, qui tenacent. Hein. Je dirais qu'encore, il y a des pensées évolutionnistes aujourd'hui, c'est malheureusement pas passé. Pour moi, je dis malheureusement, pour certains, peut-être pas. Il y a des gens qui pensent que vraiment, encore, il y a des sous-développés, hein, et que ça deviendra... Bon. Donc, c'est pas parce que je dis que là, c'est fait que ça n'existe plus. Hein, ça va continuer, malheureusement, tous ces mouvements vont continuer. Et on va passer à une autre pensée qui va être aussi très importante pour la littérature orale. C'est ce qu'on appelle le diffusionnisme. Hein, c'est-à-dire qu'une culture diffuse à une autre culture et continue comme ça. Alors là, on a des grands porteurs de cette école qui sont Franz Boas, hein, un grand spécialiste des Inuits d'ailleurs, hein, des Esquimaux comme on disait à l'époque. Voilà. Des gens comme Malinowski, hein, qui sont porteurs de cet espace-là, qui essaient de comprendre les interactions, mais surtout comment une culture a emprunté à une autre culture, ou comment elle développe, comment elle diffuse aussi sa propre culture à l'extérieur. Hein. Donc on est vraiment, Malinowski sera d'ailleurs plutôt, après il va très vite passer à la notion de fonctionnalisme, on en parlera tout à l'heure. Hein. Ce diffusionnisme, en tous les cas, il est important parce que c'est l'époque, hein, on va dire que c'est l'époque autour de 1850-1860, hein, il est vraiment très répandu, et c'est l'époque où existent les collecteurs en France. Hein, le mouvement des collecteurs qui démarre avec Grimm, qui va se prolonger un petit peu partout dans le monde, c'est à peu près dans cette période, et ces collecteurs s'inscrivent beaucoup dans ce diffusionnisme. Hein, c'est l'époque où on pense que tous les contes viennent de l'Inde. Hein, vous savez, il y a la découverte des Indo-Européens, des Aryens, hein, qui malheureusement par la suite deviendront un support aussi à d'autres idéologies. Voilà. Mais on est dans une période où le conte, on cherche ses origines et ses diffusions dans le monde. Hein. Donc on va avoir des grands érudits à cette époque-là qui vont nous fournir aujourd'hui des outils absolument fabuleux que l'on sait faux sur le plan de la méthodologie, de l'intention, mais qui ont été vraiment des travaux d'érudition qui sont aujourd'hui extrêmement importants pour connaître, par exemple, des versions de contes. C'est l'époque où se prépare quelque chose qu'on va retrouver un peu plus tard, c'est l'école finnoise en littérature orale, c'est-à-dire l'école qui va créer la classification internationale des contes, hein, à partir de Anti-Arn et de Stitt-Thompson. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. En tous les cas, c'est cette pensée de diffusion, hein, qui va être génératrice un petit peu de tout ce mouvement. Donc après, Malinowski va faire un travail de terrain, comme on dit. On va s'apercevoir que l'anthropologie a progressivement se structuré à partir de différents cadres méthodologiques. Hein. Et à partir de Malinowski, on va travailler davantage déjà la notion des rapports sociaux, hein, c'est-à-dire la notion de fonction. Hein. C'est-à-dire quelque part, on va étudier les sociétés point par point, la famille, l'autorité, la protection, on va essayer de voir les jeux de fonction de chacune des personnes, mais aussi on va travailler les récits, hein, on va chercher dans les récits ce qu'on appelle leur fonctionnalité. À quoi servent les récits? On ne les interroge plus uniquement comme support d'un peuple, mais on commence à se poser la question, mais à quoi ils servent, hein. Et on a à ce moment-là des études aussi tout à fait intéressantes sur ces différentes fonctions des récits dans les sociétés. Donc après, on a vraiment tout un courant qui va se changer. Hein. On va avoir un courant un peu bizarre entre le structuralisme et le fonctionnalisme là, qui se met en place, avec des gens comme Fitz hein, en particulier, mais aussi avec des gens qui sont encore là, hein, des gens comme Jacques Gaudy, qui fait partie de ce mouvement, entre le fonctionnalisme du récit, par exemple, hein, et en même temps le côté structurant du récit. Hein, dans tout ce travail, vous pensez que Jacques Gaudy a travaillé pendant toute sa vie sur la relation écrit-orale. En particulier, c'était son grand cheval de bataille. C'est quelqu'un qui habite pas très loin aujourd'hui, parce qu'il a une maison à côté de Montpellier. Mais c'est quelqu'un qui fait partie de ce mouvement-là, hein, et qui est un vieux monsieur, bien sûr, il a 92 ans. Hein. Et arrive, bien sûr, quelque chose qui va révolutionner encore une fois notre vision, c'est le courant structuraliste. Hein, c'est le travail, en particulier, de Claude Lévi-Strauss, qu'on connaît bien, qui vient de disparaître il y a pas bien longtemps. Et Claude Lévi-Strauss va commencer à envisager les récits de littérature orale hein, comme des repères un petit peu structurants aussi, c'est-à-dire des façons de regarder. Et il va changer un petit peu notre mode de regard. Hein. Il dit une chose qui me paraît intéressante pour comprendre ce qui va suivre après dans la littérature orale. Quand il parle du mythe, il dit « Nous ne prétendons pas montrer comment les hommes se pensent dans les mythes, mais comment les mythes se pensent dans les hommes à leur insu. » C'est-à-dire que pour lui, bien sûr, il y a la création du récit, mais c'est un reflet hein, davantage de ce que sont les hommes, hein, et les hommes se pensent au travers de ça, plutôt que le contraire. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une pensée des hommes, c'est plutôt une façon pour les hommes de se penser. Et ce qui va commencer à mettre en doute aussi, c'est le fait qu'un mythe puisse être suffisant pour comprendre une mythologie. Hein. Et il va commencer à faire son travail sur les mythologies, qui est absolument passionnant, mais il faut être un bon lecteur, puisque c'est 4 énormes volumes, hein, qui viennent d'être réédités d'ailleurs. Pendant très longtemps, on avait du mal à les trouver, ils viennent d'être réédités. Vous avez un détail de tout un ensemble de mythes sur un territoire très large. Et toute sa vie, il va passer toute sa vie de chercheur va être avec cette constante du mythe. Hein. Il va toujours travailler avec cette relation. Si vous reprenez encore ses derniers écrits, ses derniers récits, il parle encore de cette relation au mythe en tant que lieu structurant. Il faut penser que sa façon d'envisager le monde vient aussi de quelqu'un que, quand on travaille sur le conte, on rencontre très souvent. Il vient d'un linguiste, hein, il vient d'un folkloriste linguiste qui est propre, qui est introduit d'ailleurs dans le monde occidental par Lévi-Strauss. Hein, c'est quelqu'un qui a écrit très tôt et qui est réintroduit très tard dans la connaissance du monde occidental. Et c'est vraiment ces méthodes structuralistes, on va dire les méthodes structuralistes propres, qui vont servir de socle au structuralisme aussi de Lévi-Strauss. Hein. Donc il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a son travail. Hein. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est sur ce courant encore, mais qui commence à. On est aujourd'hui avec ce qu'on appelle les post-structuralistes, hein, des gens comme Philippe Descola, etc., qui remettent en cause, pas le structuralisme en tant que tel, mais certains éléments du structuralisme, hein, et qui vont continuer petit à petit à regarder les choses autrement. Alors, bizarrement, Descola, Philippe Descola, qui est un anthropologue très contemporain, utilise des méthodes de Lévi-Strauss, hein, pour faire son travail en Amazonie, où a aussi travaillé d'ailleurs Lévi-Strauss. Hein. Donc ce qui va se passer surtout, c'est qu'on va, au travers de tous ces mouvements, changer aussi d'attitude. Il faut, toute anthropologie, qui est aussi l'ethnologie, on en parlera un petit peu des sous-catégories tout à l'heure, hein, jusque-là, travaille surtout sur des terrains lointains, sur cette notion d'altérité. Hein, c'est-à-dire qu'on considère qu'on ne peut pas travailler dans un domaine sur lequel on est trop présent, trop prégnant. Hein, c'est difficile on a du mal à trouver des distances. Hein, et on va voir que cette notion de distance est extrêmement importante. Donc pour mieux voir, il faut voir ce que l'on ne connaît vraiment pas. Il faut aller loin. Il faut se mettre en rupture avec tout ce que Bourdieu appellera plus tard les habitus, hein, qui nous troublent, qui nous mettent en difficulté de voir clairement les choses. Mais petit à petit, le travail qui va se mettre en route va créer aussi des outils méthodologiques. Et il faut penser que l'ethnologie en tant que science n'est reconnue que dans les années 60. C'est quelque chose d'extrêmement récent. L'ethnologue était souvent un peu considéré comme quelqu'un qui ne travaillait pas sérieusement, qui était très dans la subjectivité. Il y a vraiment toujours eu comme ça un regard un peu particulier sur l'ethnologie. À partir des années 60, on en fait vraiment un outil des sciences humaines. Ça vient justement, je pense que Claude Lévi-Strauss y a beaucoup travaillé, hein, aussi avec d'autres. Hein. Des gens comme Balandier, par exemple, qui vont aussi muter les façons de voir, hein, vont beaucoup aider à ça. Et ce mouvement, progressivement, va amener ce qu'on appellera l'ethnologie européenne, ou l'ethnologie française pour nous, hein, et va rejoindre aussi très fortement un autre mouvement qui s'est construit en parallèle, c'est le mouvement des folkloristes. Alors les folkloristes qui pendant très longtemps étaient avant tout des gens qui fondaient le patrimoine, hein, c'est-à-dire qui allaient chercher sur le terrain, avec toujours, vous savez, cette obsession permanente qu'on a dans la tête des fois, on a peur que ça va se perdre. Hein, voilà. Donc c'est ce côté très collectionneur des folkloristes en même temps, hein, qui est surtout de recueillir les récits à tout prix avant qu'ils n'existent plus. Donc on a des collectes qui sont tout à fait très belles au niveau de la littérature, mais que l'ethnologie ne peut pas admettre. Et on verra pourquoi tout à l'heure, parce qu'on est vraiment sur des collectes déjà qui se font sous la dictée. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre des notes sous la dictée, je peux vous dire qu'on est toujours en train de transgresser la parole, on est toujours en train de réaménager malgré soi pour que ça soit lisible, hein, les choses. Ouais, il faut prendre le temps et être vraiment sur une demande redite permanente. Hein. Voilà. Donc on va dire que les folkloristes ont cumulé une matière qui est tout à fait intéressante. Mais il va manquer un élément très important que va amener l'ethnologie, c'est la contextualisation. C'est-à-dire, quelque part, un récit, oui, mais qu'est-ce que ce récit dit ? Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on a comme information sur le moment où il a été collecté, le pourquoi il a été dit, de qui le dit, de comment il a reçu. Ça correspond à quelle période, à quelle saison, hein ? Parce que tous ces récits, en fin de compte, pour les comprendre, ils ne sont pas autosuffisant. Et c'est ça la grosse problématique, hein, c'est ce qui va se passer après, plus tard, avec toute la notion aussi d'ethnotexte, hein. C'est-à-dire que l'anthropologue qui va être sur son terrain, on va y venir, sur son terrain, il doit comprendre pourquoi le récit est là, pourquoi il est dit à ce moment-là, hein, pourquoi on choisit ce récit et pas un autre. Alors, il y a des endroits où, bien sûr, il y a des espaces d'à-propos extrêmement repérables, puis on va s'apercevoir que la littérature orale, en tous les cas, dans une situation traditionnelle, est une littérature orale extrêmement ritualisée. Donc ça veut dire que quelque part, on va être à partir de l'ethnologie, il y a un monsieur qui va être très fondateur de ce mouvement aussi en France, c'est Arnold van Gennep, hein, qui va commencer, qu'on considère souvent comme un des fondateurs de l'ethnologie française, par sa méthode du folklore, c'est-à-dire qu'il va commencer à organiser la lecture un peu systématique, non pas d'un objet isolé, mais d'un tout. C'est-à-dire qu'il va créer des outils pour qu'on observe la société, la communauté dans laquelle on travaille, dans sa globalité, et non plus sur un seul objet. Et on commence à voir ce qu'on appelle des monographies de terrain ethnologiques, hein, qui vont se mettre en place, c'est-à-dire des études systématiques sur des terrains cohérents. C'est-à-dire que les ethnologues, petit à petit, vont prendre l'habitude de ne pas choisir des terrains trop vastes, mais de choisir des terrains limités et cohérents. De manière à voir comment les récits, si travaillent sur la littérature orale, bien sûr, s'organisent dans ce territoire. On a un exemple ici de quelqu'un qui a été important pour la littérature orale, c'est Jean-Noël Pelen, hein, qui est un ethnologue qui travaille à l'Université d'Aix-en-Provence et qui a fait tout un travail sur la Vallée Longue, donc au-dessus de la Grand Combe, hein, Jacques Crest, toute cette partie, voilà, et qui s'est frotté vraiment à des grosses difficultés de collecte. Et là, il a vraiment très vite compris aussi pourquoi les anciens ne voulaient pas collecter. Il disait, mais pourquoi tu veux que je te raconte des histoires puisqu'il n'y a plus personne qui peut comprendre ce qu'elles veulent dire. Et il a été obligé de recréer des veillées pour déclencher le travail de terrain. Donc il y a tout un travail de contextualisation, en gros, qui a été nécessaire pour que, quelque part, même les gens se réautorisent à parler. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit petit à petit que la littérature orale, bien sûr, n'est pas réfléchi par les gens d'un territoire comme étant un objet de sens, c'est plutôt conçu comme un objet de loisir et de plaisir, mais que malgré tout, elle n'est pas dégagée d'une cohérence sociale dite. Et ça, les ethnologues, bien sûr, vont beaucoup y travailler. Donc sur notre territoire, on a eu des gens comme Pelen, mais aussi comme Madame Coulon, on a aussi comme Pierre Laurence, c'est Nicole Coulon, je cherche son prénom, voilà. Comme Pierre Laurence, etc., qui ont fait des travaux systématiques de collecte, je dirais qu'ils se rattachent avant tout à une tradition presque révolue. Hein, c'est des gens qui ont fait un vrai travail de conservation d'un patrimoine, d'un type de société qui était en train de disparaître. Hein, c'est un type de société rurale, où les communautés étaient extrêmement fortes dans une vallée, dans une identité très, très, très calme. Donc on est dans un espace où l'ethnologie va être peut-être dans un esprit, dans un premier temps, de sauvegarder quelque chose en train de se finir. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, les conteurs traditionnels, il n'y en a plus. On est vraiment sur un espace, sur la région, le dernier peut-être qui a été collecté, c'est Nicole Coulon, qui l'avait fait avec Marcel Volpierre sur le Mont-Lozère. C'était vraiment un des rares conteurs traditionnels qui était encore présent en présence. Il y a encore quelques résistances. Là, il y a un travail qui vient d'être fait par Jean-Pierre Pignès du Garay à Carcassonne sur Pierre Pousse, qui est un conteur traditionnel magnifique. D'ailleurs, il a fait un très beau DVD que je vous conseille de regarder sur la littérature orale. C'est un vrai petit bijou. Voilà, mais on va dire que c'est les dernières résistances d'une tradition orale traditionnelle. Voilà. Donc, l'anthropologie va continuer, bien sûr, sur la littérature orale, mais de façon un peu autre. Je vais rester pour l'instant sur le domaine français. Elle va commencer à s'intéresser progressivement à la notion de renouveau du conte. Et en 1989, le CNRS, sous l'égide de Geneviève Calame-Griol, va organiser un premier grand colloque international autour de la notion de renouveau du conte. Et donc aujourd'hui, on a des personnes progressivement qui rentrent dans l'observation de ce phénomène. Donc, voir un petit peu comment le conte va être toujours capté, souvent dans un même répertoire, voir comme d'autres récits se mettent en route aussi, mais surtout comment les rituels de comptage se mettent en place différemment. Donc, on a des gens comme Soisic Hernandez, par exemple, qui a fait un premier point il n'y a pas longtemps, mais il y a aussi beaucoup de jeunes anthropologues qui s'intéressent au mouvement, et on en reçoit d'ailleurs quelques-uns au centre de temps en temps pour essayer de les aider dans leur démarche. Donc ça, c'est un mouvement qui, je dirais, est très récent, puisqu'il démarre vraiment, c'est vraiment cette étude, démarre sur le néocomptage, en 89. Le CNRS, bien sûr, s'intéresse au conte depuis sa création. Il y en a déjà des ouvrages extrêmement importants. J'en ai amené un ici, mais il y en a des quantités sur ce domaine, à ce niveau-là. Donc on va dire qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où, bien sûr, l'ethnologie ne se base plus sur un espace qu'on pourrait appeler culturaliste. Ça aussi, ça a été toute une... On regardait un petit peu les sociétés dites primitives comme des sociétés figées, un petit peu comme si leur culture ne bougeait pas. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de culture sans mutation. La culture est en permanente mutation. Et quelque part, je crois qu'on a changé aussi de casquette. On n'est plus là uniquement pour analyser des choses figées en tant qu'anthropologue ou ethnologue, mais aussi pour observer des mutations en train de se faire sur des champs culturels, des croisements. Alors, on l'a beaucoup vu ici sur le champ des migrations, C'est-à-dire quand on a un élément de migration qui se met en place, si elle se fait pleinement, à un moment donné, ce n'est pas uniquement les migrants qui changent, c'est aussi les gens du territoire. Il y a aussi tout un espace culturel en tant que tel qui est un espace de mutation. Hein. Donc la littérature orale, et ça, il y a un travail qui a été très bien fait par une autre ethnologue qui, elle, travaillait en particulier sur le monde kabyle, mais qui nous a donné des choses intéressantes, c'est Camille La Cause du Jardin, pour ceux qui la connaissent, et qui, elle, a carrément travaillé sur un répertoire des contes kabyles et une analyse de ces répertoires à partir de femmes en situation d'immigration. Elle n'est pas du tout allée en Kabylie, elle est allée travailler, et en même temps, elle a mesuré à quel point c'était des lieux, les contes, qui maintenaient une mémoire d'une tradition. Hein, mémoire d'une tradition en train de changer de l'autre côté aussi, d'ailleurs. Hein, c'est tout un jeu de mouvance hein, qui est en train de se passer. Donc, on va dire que le conte, de plus en plus, devient non plus un objet figé de répertoire, mais plutôt un étalon qui permet de mesurer les mutations d'une société au travers de son répertoire. Et l'anthropologie s'intéresse beaucoup à cet objet-là, puisque quelque part, c'est un espace qui permet, dans les variantes conçues, de comprendre comment les représentations sont en train de changer, tout simplement, sur un monde. C'est-à-dire comment on va charger ces récits, comment on va faire muter les représentations qui étaient trop ancrées dans une culture, et comment on voit cette mutation au fur et à mesure des variantes captées. Donc les répertoires en tant que tels sont des vrais supports à comprendre ce qui se passe aussi dans les perspectives de représentation. Donc après, je dirais qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas trop par où on pourrait aller, mais on va très vite passer après à la discussion, parce que je pense que vous avez sûrement plein de choses à demander. Donc je dirais qu'il y a des grands référents aussi dans le monde de la collecte, par exemple africaine ou étrangère, hein. Il y a des personnes, bien sûr, toute la ethnologie africaine est tissée d'une collecte de la littérature orale. Bon, un des premiers qu'on connaît, bien sûr, c'est Marcel Griol avec les Dogons, qui a passé un temps énorme à capter cette mythologie. Hein, alors, est-ce qu'il a tout capté comme il fallait le capter, j'en sais rien. Il y a des choses sûrement qui n'étaient pas justes dans ce qu'on lui a donné, est-ce qu'il a compris, mais aujourd'hui, on affine. Hein, donc c'était Griol, Yeterline, toute une époque des grandes missions françaises hein, sur l'Afrique. Au niveau de l'ethnologie. Progressivement, mais on a d'autres personnes qui vont rentrer et qui vont rentrer dans des champs très différents. C'est-à-dire que ce qui va être important de comprendre aussi, c'est que l'ethnologie, qui est bien sûr dans le champ de l'anthropologie, va beaucoup travailler à partir de disciplines différentes. C'est-à-dire que vous allez prendre des gens comme Geneviève Calame-Griol, qui est donc dans la lignée de son père, hein, Marcel Griol, mais qui a un champ très particulier qui est l'ethno-linguistique. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle va essayer de comprendre, c'est comment le conte est porteur d'une langue, hein, comment il s'inscrit dans une langue, dans une poétique particulière. Donc on est dans un champ particulier. Vous avez d'autres personnes qui vont être des ethnobotanistes et qui vont aborder la littérature orale comme support de transmission d'une connaissance, à partir des contes étiologiques, à partir des devinettes, à partir de tout un champ qui est différent. Hein. Vous avez des gens qui sont des ethnomusicologues, et qui, eux, vont essayer de comprendre comment le chant, qui fait partie donc de la littérature orale, va se transmettre, se transformer, etc. Donc, le gros problème de cette discipline, c'est qu'en même temps, elle est multifacette. Hein, et que quand on veut l'aborder, il y a une masse énorme de productions qui sont pas toujours faciles à rattacher à une lisibilité, puisque chacun a aussi ses propres techniques. Hein. Il en arrive jusqu'à aujourd'hui à avoir, même, on en a déjà parlé de ce qui était là en thérapie, la notion de l'ethnothérapie, hein, où là, on va prendre le conte en tant qu'objet qui permet de comprendre des croyances, des fondamentaux psychiques, hein, etc. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que chaque sous-discipline va aborder cette matière de façon extrêmement différente pour faire en sorte que ce savoir devienne de plus en plus précis. Hein. Moi, j'ai calculé qu'il y avait à peu près 18 secteurs des sciences humaines qui travaillaient sur la littérature orale, assez régulièrement. Hein, et en anthropologie, il y a bien une dizaine de sous-disciplines qui travaillent de façon différente sous cette matière. Hein. Donc on est quand même dans des espaces extrêmement diversifiés. Donc après, qu'est-ce qui les produit à ce niveau-là? Qui s'en occupe? Alors il y a quand même quelques grandes revues hein, qui nous tiennent au courant de ces espaces-là. Bon, il y en a une qui est une revue très classique, qui est L'Homme, hein, qui est une revue dans laquelle il y a pas mal d'articles dans ce monde-là qui passe. Il y a des cahiers de littérature orale qui sont le classique des classiques, on va dire, dans le monde de la littérature orale. C'est sûrement la seule revue scientifique qu'on ait en France hein, dans le domaine, qui est pilotée par Geneviève Calame-Griol. Voilà. On a les cahiers d'études africaines sur lesquels on a beaucoup, beaucoup de choses, les cahiers de l'Alstom, etc. Il y a vraiment toute une littérature, en tous les cas, existante dans ce domaine-là, qui est tout à fait précieuse. Alors, il y a des littératures plus anciennes aussi, bien sûr, hein, mais qu'il faut prendre avec les précautions qu'on vient de voir. Hein, c'est souvent des repères folklorisants, on va dire. Hein. Et puis après, on a des institutions qui sont aujourd'hui extrêmement aussi importantes dans le domaine de la recherche. Bon, le CNRS, on en parlait tout à l'heure, mais par exemple, on a les anciens ATP qui sont dissous maintenant, qui vont devenir le musée de la Méditerranée, hein, qui va se retrouver à Marseille. Mais on a aussi l'INALCO, hein, qui fait un travail assez remarquable en ethnolinguistique dans ce domaine-là. On a le LACITO, donc pareil, c'est des chercheurs qui travaillent surtout en linguistique. Hein, voilà. Puis il y a plein de petites choses, mais je ne vais pas vous faire une liste des grands éléments à ce niveau-là. Hein. Donc moi, je pense qu'on va très vite passer à la discussion, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir essayer de questionner. Alors après, je dirais que quand on veut vraiment aller dans des espaces comme ça, il ne faut pas avoir peur de se confronter aussi à cette masse qui est énorme. C'est des milliers et des milliers de documents qui ne sont pas toujours encore mis en cohérence. Moi, je dirais qu'il y a encore un dépouillage extrêmement fort à mettre en route. Voilà. Donc moi, j'ai essayé de vous dresser un peu une carte, parce que si on voulait, il faudrait prendre un domaine extrêmement précis et aller plus à fond. Mais on va pouvoir peut-être répondre à des demandes que vous avez de façon beaucoup plus ténue et précise. Donc je vous laisse la parole. La magie est un sujet anthropologique, on pourrait en parler. Mais je crois que quelque part, la notion du conte, le problème, c'est qu'on a une vision extrêmement déformée de cet espace-là. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde l'éveillé, déjà, il faut penser que l'éveillé n'était pas l'éveillé où on était là pour le plaisir et pour recevoir des contes, on était souvent là pour travailler. Hein. Une veillée, en général, c'était un lieu de travail, c'était un lieu où le conteur était quelqu'un qui allait faire passer en même temps la pilule, on va dire. La plupart des contes n'étaient pas des contes pour enfants. Les contes pour enfants, c'était des contes qu'on appelle de grand-mères, c'est-à-dire les contes qu'on atténuait dans leur puissance pour endormir les enfants. Hein, et c'était les grand-mères qui le faisaient parce que les parents étaient au travail. Le merveilleux, dans la plupart des sociétés, n'est pas un conte qui est donné généralement comme ça dans la communauté, c'est les mères à leurs enfants. Dans la plupart des sociétés d'Afrique, c'est souvent les mères à leurs enfants qui racontent, donc c'est déjà un lieu de l'intime. Hein. Sauf dans certaines conditions. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement ritualisées, données en tant que telles. Hein. Donc, je dirais que nous, malheureusement, et heureusement peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas d'opinion à donner là-dessus, on est très dans nos repères, en France en tous les cas, sur les contes littéraires. Hein, c'est-à-dire qu'on a peu de traces et peu de connaissances de ce que le conte dans sa dimension traditionnelle. Après, je dirais que le problème, c'est que si on garde le côté intime du conte, hein, si on fait un travail là-dessus, il est extrêmement limité. Si je faisais une questionnaire ici, combien de vous racontez des contes à vos enfants le soir ? Je pense que vous en lisez peut-être, mais en racontez sûrement pas beaucoup. Hein. Et ça veut dire quelque part, il y a un répertoire extrêmement fort qui serait en train de se perdre aussi s'il n'y avait pas d'autre façon de le travailler. Hein, c'est-à-dire tout ça, c'est des éléments. C'est-à-dire que moi, je crois que la science est venu parce que, quelque part, il y a des extinctions de traditions qui se font. C'est-à-dire, quelque part, je pense que le conte, on le voit d'ailleurs, hein, le mouvement des néo-contages, des nouveaux conteurs, ne se font pas là où il y a encore des conteurs traditionnels. Tant qu'il y a des conteurs traditionnels, il n'y en a pas besoin, puisqu'il y a déjà quelque chose qui se passe. Hein. Et bizarrement, il se met en place hein, par l'intermédiaire du livre, bizarre, chaque fois, hein, c'est les anthropologues qui travaillent là-dessus aujourd'hui, il y a des gens comme Cécile Benoist qui a travaillé sur le conte en bibliothèque, s'aperçoit que le conte va commencer à renaître dans les bibliothèques du moment que la tradition vivante du conte s'éteint dans une communauté. Donc c'est comme si quelque part, il y a d'autres éléments, c'est comme si la matière quelque part voulait pas se perdre. Elle remonte toujours quelque part. Il y a toujours une revivance qui se met en route, il y a quelque chose qui se remet en route pour que ça ne se perde pas.
Voilà, donc,
peut-être, j'en sais pas. Donc là moi, je n'ai pas de réponse non plus, mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que c'est une matière qui ne s'est jamais vraiment perdue. C'est-à-dire que, bon, on a des traces 12e siècle avant Jésus-Christ, de ce qu'est le conte, de par les captations de scribes, et on a encore aujourd'hui des contes extrêmement vivants. Il y a plus de 250 festivals de contes en France, voilà, et qui marchent très bien. Il y a des structures, il y a des associations, il y a des conteurs, amateurs, professionnels, il y a des contes en bibliothèque, il y a des heures du conte un peu partout. Voilà, donc c'est un mot qui devient extrêmement... voilà, c'est pour ça que les anthropologues s'y intéressent. C'est quoi ce truc-là? Qui depuis les années 71 se retrouve un peu partout de nouveau. Donc c'est le phénomène qui est intéressant, je dirais. Au-delà même de la matière. Voilà, donc ce que je peux en dire. Moi, je ne pense pas que ça coupe le merveilleux, en tous les cas. Le merveilleux, il est... Le conte, bien sûr, génère du merveilleux, mais il n'est pas le merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le plan anthropologique, en tous les cas, moi, je sais que le merveilleux, ce n'est pas dans le conte qui se trouve. Le conte est un moteur à réveiller quelque chose en nous qui est encore une croyance au merveilleux. C'est pas pareil. C'est-à-dire que si on n'est plus capable de nous-mêmes... C'est Leiris qui était intéressant à ce niveau-là, qui disait que de toute façon, une société qui ne se contentait que de gérer et qui oubliait de penser au merveilleux est une société perdue. C'est-à-dire, quelque part, si on n'est pas dans la capacité du rêve, il n'y a plus de projet. On gère. Donc c'est ça aussi, est-ce que notre société est capable aujourd'hui de générer du rêve? Ça, c'est une vraie question pour savoir. Et pourquoi le conte revient en ce moment, peut-être? C'est parce qu'il est peut-être moteur à régénérer quelque chose dont on a besoin, j'en sais rien. Voilà, là c'est des vraies questions à poser au niveau du travail aujourd'hui. C'est à quoi il sert? Sans être fonctionnaliste, le mouvement, en tous les cas, cette régénérescence du mouvement conté, à quoi il sert aujourd'hui? Pourquoi il est là et pourquoi il est aussi puissant? Ça, c'est des vraies questions qu'on a à se poser aujourd'hui, je crois, par rapport à cette matière. Et au-delà de la conservation des récits. Je vais peut-être vous dire pourquoi moi je m'intéresse au conte aujourd'hui, peut-être ça vous donnera des clés. Moi, quand je m'intéresse au conte aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que c'est des récits qui ont des moteurs très intéressants à nous proposer. Alors, je ne suis pas le seul, heureusement. Vous avez à Lyon 2, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Nadine Decour et qui passe sa carrière, qui est une anthropologue, qui a aussi travaillé dans le côté UFM et scolarité, enfin tout ce qui est pédagogie, et qui travaille sur la notion du conte interculturel. Et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a eu aussi des missions sur le Yémen, par exemple. Et elle s'aperçoit dans cette... Le Yémen, c'est un croisement du monde arabe. Donc, il y a beaucoup de tribus qui se retrouvent là pour commercer, etc. Et elle s'apercevait que chaque fois qu'il y avait une difficulté à aller vraiment à expliquer quelque chose de très profond, on s'installait, on se racontait un conte. Pour essayer que, pour que le conte prenne le relais dans cette profondeur. Donc, en tant qu'objet de négociation. Les gens qui travaillent encore sur le Liban vous diront que la plupart des contes, ils sont plus que évoqués souvent. Parce que les gens les connaissent tellement bien que quelque part, ils n'ont plus besoin de se les raconter. C'est un gros problème pour les collecteurs, d'ailleurs. C'est qu'il faut capter les sous-entendus. C'est ce qu'on appelle les contes d'à-propos. « Ah, t'es pire que Mlaouna Sredin sur son bateau, toi !» Oui, si vous ne connaissez pas l'histoire, tout le monde se met à rire, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, mais on n'a plus besoin de les raconter. Ça fait partie d'un répertoire communautaire engrangé. Donc ça devient un outil de concentration de communication. On va dire. C'est quelque chose qui peut dire beaucoup de choses en une simple évocation. Voilà, il y a des images, il y a des représentations, il y a des stéréotypes, il y a aussi des choses beaucoup plus profondes. Et la simple évocation peut être un lieu de tout le monde connaît, donc on comprend de suite ce que l'autre veut dire, plutôt que des grands discours. Il suffit d'évoquer le conte ou l'image d'un personnage. Donc voilà, on va s'apercevoir que dans les sociétés traditionnelles, c'est une vraie intelligence de communication, le conte. C'est pas uniquement... Et aujourd'hui, on s'en resserre un peu comme ça aussi. Mais on ne connaît plus les contes. Aujourd'hui, je dirais que notre patrimoine de référence, je ne sais pas où il est le patrimoine de référence communautaire. Et dans une situation où on doit créer la mondialisation, et pas uniquement économique, j'espère, ou politique même, mais si on doit mettre en place un espace d'intercompréhension à minima, je trouve que c'est un objet intéressant. Parce qu'il est répandu dans le monde entier pour certaines versions. On a vraiment des versions qui sont extrêmement répandues. Voilà, donc on a des axes communs. Donc on a un répertoire qui pourrait permettre d'aller très vite dans des intercompréhensions s'il est partagé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça veut dire que quelque part, il faut se pencher un petit peu sur l'étude de où c'est qu'il y a des objets communautaires, hein, où c'est qu'il y a des objets partagés, où c'est qu'il y a des objets qui font différence, etc. Donc c'est là où le travail va devenir important, c'est de détecter à un moment donné ces outils-là. Ce n'est pas pour rien que les gens qui font de la communication s'intéressent au compte aussi. Hein, moi, je travaillais avec un prof canadien qui est sur le Québec, et qui travaille sur le compte parce que quelque part il a très bien compris que là-dedans aussi il y avait des objets concentrés de communication qui étaient très intéressants, et c'est pas d'aujourd'hui que les gens de la communication s'intéressent, hein, si vous lisez les revues de communication vous allez voir qu'il y a des numéros entiers sur la littérature orale et sur le compte. Voilà, donc bon, c'est vraiment tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a une vision extrêmement restreinte de cette matière parce qu'elle a été portée comme un objet enfantin. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a considéré que le conte était fait pour les enfants. Et ça, c'est quelque chose, c'est une image qui est relativement récente pour les communautés traditionnelles. Ce n'était pas du tout un objet pour enfants. C'était vraiment un objet de cohérence, de tissage de cohérence dans la parole. Voilà, donc pour moi, le merveilleux, en tous les cas, il dépend d'autres choses. Mais voilà, moi, le conte m'intéresse dans cet objet-là. Ce qui m'intéresse dans le conte, c'est d'observer aussi le néo-contage, parce que justement, qu'est-ce qui est en train de se jouer au niveau de cette remise en forme du conte, hein, donc il y a plein de formes différentes qui se cherchent. Hein, il y a des récits de vie, il y a des contes, il y a des légendes, il y a des reprises en ce moment incroyables d'épopées. Intéressant de se demander pourquoi les conteurs ont besoin d'épopées et pourquoi les publics ont besoin d'épopées. Hein, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Alors que l'épopée, on sait que c'est des espaces extrêmement guerriers, voilà, mais on sait aussi qu'ils sont extrêmement fondatrices de l'identité. Et on sait que pour tout anthropologue, aujourd'hui, on sait que le 21e siècle, la difficulté, ça sera de fonder identité. Identité qui dépasse la tribu, qui dépasse le micro-groupe. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes, de voir aussi où c'est que les publics vont se retrouver à ce niveau-là. C'est à questionner, en tous les cas. C'est-à-dire, en regardant les publics en train de réagir, en regardant les propositions, les conteurs ne vont pas faire une épopée que pour le plaisir. Ils sentaient bien qu'il y a aussi une demande. Il faut s'y coller à une épopée, c'est pas simple. Donc voilà, tout ça pour moi, c'est un espace qui fait interrogation sur le plan de l'anthropologie, hein. C'est-à-dire qui même touche, qui pourrait même aider, même travailler, faire travailler la sociologie aussi, hein. Et les sociologues qui travaillent sur ce domaine-là, hein. Voilà, des gens comme Swazik Hernandez est avant tout sociologue, elle a fait un travail d'ethnologie sur le compte, mais elle était avant tout sociologue, elle était à l'Observatoire des pratiques culturelles à Grenoble, hein, donc c'est quelqu'un qui a une vision plutôt sociologique. Donc même les sociologues aujourd'hui s'y intéressent, donc c'est intéressant quand même d'aller voir pourquoi. Après, je dirais que quand on fait une soirée conte, bien sûr, on ne va pas raconter tout ça. Hein, c'est le conteur, il ne s'amuse pas à faire de l'explication, il se l'interdit même. Le conteur qui vous raconte une histoire, si vous allez lui poser une question sur le conte, il vous dira, ah, ça, le conte ne le dit pas. C'est-à-dire que quelque part, le conte est là pour vous travailler, il n'est pas là pour vous expliquer des choses. Hein. Ça, c'est important à comprendre aussi. Hein. C'est une matière qui n'est pas une matière pédagogique. C'est une matière qui est une matière de mise au travail. Donc, c'est un espace qui ne donne pas de réponse. Elle ne fait que poser des questions. Et ça, c'est terrible. Hein, le conte, il est en train de vous remuer dans un questionnement permanent au travers de son moteur symbolique. Hein. Voilà, il n'a aucune prétention à dire des réponses. Donc ça aussi, dans une société qui est occidentale, où on veut tout rationaliser, bien sûr, c'est des outils intéressants. Pourquoi on a encore besoin d'outils comme ça? Intéressant.
Non,
Non, c'est pas que figé. Je pense que même dans les jeux vidéo, il y a des choses absolument fabuleuses qui se passent, hein, mais pas au même endroit. Hein, c'est-à-dire que je crois quelque part, pour moi, une des spécificités de la littérature orale, c'est ce jeu du questionnement, c'est ce jeu de la remise en cause, c'est le jeu du travail sur les ambiguïtés. Hein, le jeu où quelque part, on est obligé d'être acteur parce qu'il n'y a rien de donné. Voilà. Dans beaucoup de jeux vidéo, moi, les jeux vidéo que j'ai pu observer, il y en a quelques-uns qui sont très bien faits où il y a cette qualité-là. Hein, on est obligé d'être décisionnaire dans des espaces extrêmement ambigus. Puis il y en a d'autres où c'est vraiment tellement figé, tellement stéréotypé que bon. Le cinéma, c'est pareil. Il y a des cinéastes qui sont des vrais conteurs parce qu'ils savent laisser la place. Hein. Donc je dirais que ce n'est pas une question de médias. Hein. Le média, après, il est important dans le fait que c'est une relation vivante et que le conteur est un performeur, on va dire, hein, si c'est vraiment un conteur. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il va raconter. Enfin, il sait à peu près où il va aller. Mais comment il va le raconter, il n'en sait rien. Ça dépend de son public, ça dépend de la salle, ça dépend du moment. Hein, c'est un jazzman de la parole, en gros. Hein. Il a une grille. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. Et pour moi, l'art du conteur, c'est un art de créer un événement présent, là, sur l'instant, qui se répétera pas deux fois. Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est un espace d'une parole particulière. On n'est pas dans un endroit où on cherche à être systématiquement le même d'un soir à l'autre. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Hein. Donner une carte blanche à un conteur, il ne choisira même pas son conte, des fois. Il va attendre de voir le public. Donc on est dans des arts, pareils, qui, je pense, sont en train de gratter dans des endroits qui nous manquent peut-être aussi. Hein, dans cette... voilà, c'est comment on crée un événement ensemble. Comment on n'est pas uniquement consommateur de ce qui se passe. C'est comment on est sollicité aussi dans notre créativité. C'est du moment qu'on ne nous donne pas tout, il y a une part de créativité qui est importante. Et ça, c'est aussi des choses qui sont pas évidentes. La télévision, elle est bien sympathique. Hein, moi, j'adore la réponse de mon informateur en Ardèche. Hein, tu dis, mais vous ne regardez pas la télévision? Et bien, pourquoi vous voulez que je discute avec quelqu'un avec qui je ne peux pas répondre? Hein, donc, c'est vraiment, si on ne peut pas répondre, bon, c'est ça la télé aussi. Hein, c'est-à-dire beaucoup d'infos, mais est-ce qu'on peut être acteur dans cette information? Est-ce qu'on peut intervenir sur cet espace-là? Le conteur, il vous autorise logiquement à pouvoir être là, il va même le solliciter de temps en temps, s'il est vraiment conteur, une fois de plus. Voilà, donc tout ça, c'est des espaces qui sont, je crois, à interroger aujourd'hui, c'est de quoi on a besoin quand on va voir un conteur. Qu'est-ce qui se passe dans un festival de contes qui ne se passera pas dans un festival de théâtre ou ailleurs? C'est une grande question qu'on a à se poser et à interroger sur le qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'un public cherche au travers de cet art. Ça, c'est du travail que pour les anthropologues à venir. On peut le savoir, hein. Si vous êtes vraiment en train de vous faire des images dans la tête en permanence, c'est que vous êtes sûrement avec un conteur. Si vous êtes en train de regarder des images en train de se passer sur scène, c'est que vous êtes sûrement avec du théâtre.
Il y a l'histoire aussi.
Comment ?
Il y a l'histoire qui fait aussi.
Oui, l'histoire, le texte, mais à terme, on peut théâtraliser du conte. Pourquoi pas ? Hein, mais on va passer autrement en plein, ça va être autre chose. Hein, c'est tout à fait possible. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que le conteur, ce qu'il va essayer de trouver en particulier, ce qui fait son art dans ce qu'il est de particulier, c'est qu'il va faire en sorte que l'image ne soit pas sur scène, mais dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'en général, vous allez voir sur un spectacle de conte, il n'y a qu'un conteur, hein, qui a un récit, il n'y a même pas de décor, on est sur un espace extrêmement nu, pour que l'image ne soit pas possible autrement qu'en vous. C'est son boulot. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne va pas jouer sur scène les personnages, il va les évoquer, il va les suggérer. De manière, il va vous donner des outils pour que vous puissiez, à partir de ces outils-là, construire quelque chose en vous de ce personnage. C'est un travail très particulier de préparation, parce que c'est toujours réfléchir à la place que je laisse au public pour être créateur, être conteur. C'est surtout pas dire ce que j'ai vu moi, dans ma tête, mais par contre, de simplement guider la personne à partir d'un outillage pour qu'il puisse lui aussi créer quelque chose en lui. Donc c'est un travail différent. Moi, j'adore le théâtre, mais je ne vais pas voir le conteur ou le théâtre pour la même raison. Je sais que c'est extrêmement différent. Il ne propose pas la même relation. Hein. Voilà. Donc, à partir de ça, ce n'est pas une question de qualité. Hein. Moi, je suis vraiment, j'adore le théâtre, et quand je peux y aller, j'y vais. Mais j'y vais pas pour les mêmes raisons, c'est vraiment tout à fait différent. Bah, le problème aujourd'hui, ce que je dirais, qu'en plus, à la fois de beaucoup de chance qu'il y a des conteurs, mais aussi beaucoup de malchance, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans certains conteurs qui ne savent plus trop s'ils doivent jouer ou pas. C'est-à-dire qu'ils connaissent peu les règles vraiment de fondation du conte. Hein. Bon, nous, on a de la formation en permanence pour ça, mais on s'aperçoit qu'on peut commencer à mettre quelqu'un dans une situation vraiment de composer sous forme contée au bout de 3 ans de travail régulier. Parce que c'est un drôle de truc, hein. C'est-à-dire qu'il faut descendre dans le conte pour soi vraiment très profondément, voir où il nous touche, et faire en sorte que ce qu'on a vécu, on ne l'impose pas à un public, mais on s'en sert pour lui faire traverser l'expérience. C'est ce que je veux dire. C'est un drôle de jeu. Hein. C'est un jeu très, 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 très bizarre. Voilà. Donc ça veut dire quelque part, il y a un gros travail sur soi, il y a un gros travail de compréhension du récit, parce que les récits sont très riches malgré ce qu'on peut penser, hein, sur le plan symbolique et pas sur le plan... le plan rationnel, on va dire, hein, pour aller vite, parce que c'est quand même rationnel. Voilà. Mais quelque part, il y a un endroit d'expression vis-à-vis d'un public qui est très différent. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a très peu de conteurs aujourd'hui qui pratiquent vraiment le conte. On a beaucoup de conteurs qui sont des comédiens, hein, qui ont une interprétation d'un récit sur scène. On n'en a pas beaucoup, hein, malheureusement. Ça vient, petit à petit, heureusement, il y en a quelques-uns qui commencent. Ça existe de façon très informelle, hein, parce que je pense que là, moi, j'étais sur un colloque au Québec au mois d'octobre, où il y avait quand même des gens d'une vingtaine de nationalités en présence sur la relation au conte. On est quand même tous d'accord à peu près sur les grands critères, mais on a beaucoup de mal à mettre des mots dessus. C'est-à-dire que les gens pratiquent, hein, mais là, ils commencent à se faire du souci, parce que justement, ils se voient débordés par d'autres arts qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils voudraient voir. Enfin, tout ce qu'ils comprennent dans tous les cas de la matière, ils ont l'impression qu'il y a une part de l'expression qui est en train de se perdre. Voilà. Donc là, on va dire qu'il y a une volonté de regroupement pour essayer de mettre des mots là-dessus, hein, pour créer ce qu'on pourrait appeler une poétique du conte. C'est-à-dire, c'est pas une question de critiquer au sens négatif du terme, mais d'avoir un outillage pour définir des styles, pour mieux comprendre justement les nouveautés qui sont en train de se mettre en place. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une question de vouloir figer à tout prix non plus un art, parce que ça serait un art mort. Hein. Et je pense qu'il y a des gens très contemporains qui font des vraies performances et qui sont toujours dans cette intention. Hein. Même si quelque part ils bougent beaucoup sur scène, même s'ils chantent, même si... au moins, des gens comme Yannick Jolin, je sais pas si vous connaissez par exemple, bon, c'est quelqu'un qui pour moi est un exemple. Dans le milieu, on l'appelle un peu notre Godard à nous, parce que c'est quelqu'un qui a été collecteur. Hein, qui a vraiment travaillé dans des collectes dans le Poitou, mais alors vraiment dans les pays les plus reculés, qui a travaillé en tant que conteur de chaises, mais qui à côté faisait du rock, hein, qui petit à petit est arrivé à devenir un conteur qui passe maintenant sur les scènes nationales, mais qui ne perd pas, vous voyez, l'intention. C'est-à-dire qu'il essaie de la porter, il essaie d'expérimenter jusqu'où elle peut aller. Voilà. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui, voilà, ça c'est des gens avec qui il faut travailler, puisqu'on est, c'est pas quelqu'un qui a figé l'art du conteur, il va tout au contraire expérimenter des nouvelles formes, des nouvelles façons d'être. Hein. Voilà, donc je pense que là aussi, l'art du conte ne peut pas rester complètement figé en tant que c'est une soirée avec une veillée, une chaise. Les sociétés ont changé en face. Hein. Donc il faut aussi s'adapter aux nouveaux modes de vie qui sont là. Voilà. Mais en même temps, il ne faut pas non plus perdre ce qui fait la spécificité de l'art. Parce que dans ces cas, ce n'est même pas la peine de continuer. On fait du théâtre, et puis voilà. Si c'est vraiment que pour ça, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas une question de pas vouloir, de pas vouloir, mais voilà, qu'est-ce qu'on repère de spécifique dans cet art, et qu'est-ce qu'au niveau, au niveau des nouvelles formes, on garde au moins un minima ? Est-ce qu'on est capable d'avoir un appareil qui permet d'avoir des stylistiques à peu près définies, pour qu'on voit à peu près comment ça va se passer ? Voilà. Et puis en même temps, pour revenir à notre sujet de l'anthropologie, c'est aussi très intéressant. Pourquoi les conteurs aujourd'hui pratiquent beaucoup le récit de vie ? Et beaucoup moins les contes. Bah, je pense dans une société qui est très branchée sur l'individualisme, c'est peut-être plus intéressant, enfin, a priori, c'est plus intéressant que d'avoir des récits qui ont été fondés pour des sociétés collectives. Hein, donc il y a des résonances peut-être qui sont plus faciles. Donc tout ça, c'est des petites choses qui sont aujourd'hui interrogées par des chercheurs, hein, de toute façon, assez régulièrement. On n'est pas dans un terrain vierge, on va dire, au niveau de la recherche. Hein. Il y a beaucoup de travail qui se font au niveau anthropologique sur ce domaine-là. Voilà, il y a beaucoup de gens, au niveau de Lorston, par exemple, j'écoute, hein, qui en Afrique s'en servent pour comprendre les mutations de mentalité et de représentation, hein, quand ils travaillent sur du terrain. Parce que voir les variantes en train de changer, c'est comprendre aussi les choses en train de bouger dans l'espace de la représentation. Au-dessus, puis...
Oui,
la soirée compte. Il y en a régulièrement, en général, les vendredis qui suivent la conférence.
Excusez-moi, là, c'est la tournée que vous expliquez. Donc, c'est très, très intéressant. Moi, personnellement, je n'ai jamais assisté. Il y avait ma grand-mère et ma tante qui me racontaient le petit poussé, Alibaba les 40 voleurs. Mais en tant qu'adulte, puisque tout à l'heure, vous avez dit que le conte est pour des adultes et pour des enfants, je n'ai jamais entendu.
Venez vendredi, vous entendrez une conteuse. Chaque fois qu'il y a une conférence, le vendredi soir, il y a un spectacle qui suit. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une conférence, le vendredi, il y a un spectacle. La conférence est là justement pour introduire un peu les sujets de spectacle. Donc vous avez là, en plus, sur l'occasion, toute l'année, il y a vraiment partout, il y a des festivals autour d'Alès, il y en a partout. Hein. Déjà, l'ethnologie est un secteur de l'anthropologie, hein, de toute façon. C'est une façon... je vais faire quelque chose qui est plus valable, mais enfin, ça permettra peut-être de comprendre, parce qu'aujourd'hui, on appelle quelqu'un aussi bien ethnologue qu'anthropologue. Il n'y a plus vraiment ce cloisonnement. Mais à l'époque, on considérait que l'anthropologue... Enfin, on va partir d'en bas. L'ethnographe, celui qui faisait de l'ethnographie, et celui qui allait sur un territoire et capter la matière d'un territoire particulier sans se poser la question de l'analyse. Aujourd'hui, j'en connais plus beaucoup. Si on fait un travail, en général, on va jusqu'à l'analyse. Et l'analyse était en général plutôt consacrée à l'ethnologue. Hein, c'est-à-dire que c'était qui reprenait ce qu'avait recueilli l'ethnographe et qui allait l'analyser. Mais c'était la notion de l'ethnologie en général et cette notion qui va avec la notion de terrain. C'est-à-dire que si on fait un terrain... sur un secteur, on va choisir un terrain cohérent, limité, dans lequel existent un groupe ou plusieurs groupes extrêmement cohérents. Ça, c'est l'ethnologie. L'anthropologue, je dirais que ce que j'aurais dû faire, c'est de dire qu'on est plutôt sur ce qu'on appelle, mais c'est pareil, ça ne se limite plus comme ça aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle l'anthropologie sociale et culturelle. C'est-à-dire que l'anthropologie, on ne va pas travailler sur la médecine ou sur... parce qu'il y a des anthropologues qui sont du côté physiologique, physique, biologique. Donc ça, c'est notre anthropologie, mais disons que celle dont je parle est plutôt l'anthropologie sociale et culturelle. Et lui, son objectif, c'était de ramener les données des ethnologues avec qui il travaillait à des généralités sur l'homme. Hein, voilà, donc, si tu veux, l'exemple même de quelqu'un qui est passé par toutes ces étapes, c'est Claude Lévi-Strauss, hein, qui a été à la fois ethnographe au niveau de son terrain, qui est devenu ethnologue et qui est passé à l'anthropologie. Hein, c'est-à-dire que vraiment, il a commencé à se poser des questions sur tout ce qu'il avait pu trouver, qu'est-ce que ça ramène de la compréhension de l'homme en général. Voilà. Mais c'est des niveaux, mais à terme, pour moi, la littérature orale est sur tout ce niveau-là. Hein, tout simplement parce qu'au niveau, par exemple, de la généralité des hommes, bizarrement, dans toutes les sociétés traditionnelles, quelles qu'elles soient, et dans les sociétés non traditionnelles, le conte et le mythe sont omniprésents. Donc ça veut dire que quelque part, c'est quelque chose qui, au niveau anthropologique, est un sujet d'anthropologie. Ça serait limité à une ethnie ou à un territoire, on pourrait penser que c'était qu'un sujet ethnographique. Ce n'est pas le cas. C'est un outil qui vraiment déborde largement un territoire. C'est vraiment tous les hommes, quels qu'ils soient. On a parfois, des fois, l'impression que c'est une façon de dire le plus simplement possible des choses complexes, des choses qu'on reçoit en nous. Hein. Voilà. Donc, des cadres organisateurs dans le récit, en tous les cas. Dans tous les cas, c'est des espaces qui sont vraiment partagés par l'humanité. Donc, n'importe quel anthropologue ne peut pas éviter de se poser la question du récit narratif de littérature orale. Après, bon, qu'est-ce qu'il en est advenu dans le monde occidental, qui est une société de tradition écrite ? C'est-à-dire que là aussi, après, bon, il y a des vrais sujets d'anthropologie aujourd'hui, ce qu'a fait des gens comme Gaudi. Hein. C'est-à-dire, est-ce que les récits sont les mêmes ? Hein, non, bien sûr. Du moment que l'oralité a rencontré l'écriture, il y a une interaction permanente, il n'y a pas de poche étanche. Donc, bien sûr, il y a de l'influence de l'écrit dans l'oral, de l'oral dans l'écrit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ceux qui se sont enrichis. Hein, qu'est-ce qu'ils sont allés puiser ? Pourquoi il y a eu des interdictions ? C'est Gaudi qui avait fait ce travail de pourquoi les contes traditionnels n'arrivent dans les bouquins de classe ou dans le côté vraiment accepté officiellement que du moment qu'ils sont traduits en français. Intéressant comme question. Hein, c'est-à-dire que pourquoi le côté patoisant n'arrive jamais alors que c'est là où les conteurs traditionnels pouvaient s'exprimer. Hein, donc c'est, voilà, on s'aperçoit bien que l'écriture va influencer hein, de toute façon. Donc là, je dirais que quand on travaille sur le monde occidental, on ne peut pas y travailler comme dans une société où l'écriture n'est pas présente, hein, bien sûr. Mais c'est un sujet d'anthropologie, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais... Hein. Au niveau matérialiste ? Dans un monde matérialiste. Dans un monde matérialiste. Alors, c'est le problème de savoir ce que c'est que le matériel en soi. Il y a un élément qui est important, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le patrimoine en tant que tel qu'on l'a considéré pendant très longtemps de façon uniquement matérielle, ben, il y en avait un autre qui était aussi extrêmement important, c'est le patrimoine immatériel. Hein. C'est-à-dire que l'UNESCO, en 2003, a passé une charte pour essayer de mettre en place une sauvegarde de cet espace-là. Et elle a été très surprise, parce qu'elle pensait que ça serait très difficile à faire passer pour les pays. 120 pays de suite, on dirait. Alors qu'il en fallait une quarantaine pour que ça puisse être intéressant. 120. Et en général, après, la deuxième phase, c'est l'adhésion à la charte. Alors là, c'est pas plus compliqué, parce qu'il faut donner de l'argent pour financer le projet. Alors là, ils se sont dit, là, ça passera pas. Et ça n'a jamais été aussi rapide. Dans l'affaire de même pas un an, il y avait plus de 95 pays qui ont adhéré, alors qu'il en fallait 30 pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, quelque part, je pense qu'il y a aussi, au travers de cette matière, de l'immatériel en général, il y a une forme de reconnaissance des sociétés sans écriture. Hein, et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un n'écrit pas qu'il est inintelligent. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'écriture alphabétique à sa disposition qu'il n'a pas construit de savoir. Il les a construits autrement. Et ces patrimoines sont intéressants au niveau du matériel parce qu'ils donnent aussi, ils valorisent, ils mettent une perspective de connaissance et de reconnaissance de fondamentaux qui ne sont pas passés par le filtre de l'écrit. Donc il y a vraiment des objets aussi qui sont aujourd'hui très intéressants en train de se développer dans ce niveau-là. Mais ça devient du coup, c'est pas du matériel non plus, hein, parce que quelque part le gros souci de tous les ethnos qui ont participé, moi j'ai travaillé un petit peu à un moment donné avec eux, Je suis allé sur 2 ou 3 séminaires, mais le souci, c'était comment ne pas rendre matériel l'immatériel. Parce que du moment qu'on le met dans l'écrit, c'est perdu. Hein? Et donc, ils se sont appuyés sur un concept qui est très intéressant, qui est un concept japonais. On ne classe pas la matière, on classe le porteur de la matière. Donc, ce qui est classé dans la littérature orale, ce n'est pas la littérature orale, c'est le conteur. On fait en sorte qu'il puisse, à son tour, transmettre sans l'aide de l'écriture. Voilà. Donc, c'est un drôle de truc. Hein. Mais en même temps, ça devient intéressant. Il faut penser que, par exemple, il y a des épopées qui ne sont strictement pas écrites encore parce que les porteurs n'ont jamais voulu qu'on les écrive. Hein, il y a l'épopée des rois en Égypte, par exemple. C'est plusieurs millions de vers. Ce n'est pas des milliers de vers, c'est des millions de vers. Hein? Donc pour apprendre ça, je peux vous dire qu'il faut être costaud, et il faut avoir des gens qui suivent pendant 10 ans. Et encore, il faut qu'ils soient... c'est vraiment tout un espace de la transmission. Voilà, mais quelque part, l'écrire changerait radicalement le processus de transmission et changerait donc la matière en elle-même. Hein? Parce que quelque part, c'est une épopée qui mute en fonction aussi de la société qui est traversée par l'épopée. Donc c'est un patrimoine aussi, mais c'est un patrimoine qui est un peu bizarre, parce qu'on se retrouve dans des conditions de refus en même temps de certaines personnes de transmettre pour que ça soit fixé. On a eu les mêmes problèmes à l'époque des druides, des bardes, qui ne voulaient pas transmettre. Hein. C'est pour ça qu'on a des gros problèmes, par exemple, avec la mythologie celtique. Hein, c'est tout un espace où ils pensaient que transmettre, c'était tuer le récit. C'était le figer, hein, c'était le rendre dans une... Oui, c'était un témoignage intéressant, mais il ne pouvait plus coller à la réalité de ce qui était en train de se passer. Il ne pouvait plus évoluer avec hein, les hommes qui étaient autour de lui. Donc c'est des questions que les ethnologues, l'UNESCO s'est posées. Moi, je ne suis pas porteur de ma parole. Hein, c'est vraiment, ça a duré de 70 hein, à 2003, le travail. Vous voyez, c'est pas... C'est pas un petit truc, hein. c'est vraiment un travail de fond. Il y avait une réunion tous les mois à l'EHESS par rapport à des séminaires qui se faisaient là-dessus. Donc il y a vraiment un travail qui est de fond, qui a été vraiment réfléchi. Voilà. Mais pour nous, souvent, on pense patrimoine, on pense savoir uniquement dans la relation au matériel et à l'écrit. Mais je crois qu'il y a aussi toute une transmission autre que nous, on a oubliée maintenant. Hein. Elle est plus posée, mais je crois qu'on ne reçoit pas la même chose avec les yeux qu'avec les oreilles, qu'avec une présence corporelle. Hein.
Le conte, il existe, ça existe partout.
Partout. On n'a pas trouvé de société où il n'existe pas. Et des fois avec des choses extrêmement bizarres, parce qu'on se retrouve des fois avec des sociétés que l'on sait ne pas avoir eu de relation. Et qui ont des contes-types presque identiques. Donc ça, c'est pas des mystères, hein, y a plein d'hypothèses là-dessus. Puisque comme on est vraiment sur des questionnements qui touchent à la permanence de l'humain et à l'archétype de l'humain, donc la façon de poser la question, souvent, elle n'est pas extrêmement différente. Hein. Alors ça, par contre, on ne trouve pas des variantes répandues dans toutes les communautés. Hein, c'est souvent limité quand même, mais par contre, on trouve des variantes de contes dans des communautés qui n'ont pas eu de contact apparent, en tous les cas, hein, et qui portent à peu près les mêmes variantes. Donc il y a encore des questions à se poser. Oui, de toute façon, hein. Là, c'est des gens comme Dundee, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand chercheur américain qui avait travaillé sur Cendrillon, hein, qui a travaillé sur à peu près 3000 variantes de Cendrillon. Qui se répartissent vraiment sur un territoire extrêmement vaste. C'est un des contes sûrement les plus, à notre connaissance aujourd'hui, hein, qui est sûrement un des contes les plus répandus. Voilà. Mais après, si on reste sur la version base de Cendrillon, oh, la pauvre jeune fille en train de... c'est pas ça. Cendrillon, c'est quelqu'un qui est dans une situation où elle ne veut pas partir de chez elle. Hein, et si elle ne veut pas partir de chez elle et qu'elle reste à côté de son père, comment elle va pouvoir s'accomplir en tant que femme? Ça, c'est autre chose. Et ça, cette variance-là, cette problématique-là, on la retrouve dans tous les peuples. Voilà. Et l'expression intéressante, c'est qu'on va presque toujours avoir la notion de sang dans la plupart des versions. Des choses, des fois, qu'on a du mal à reconnaître, puis petit à petit, en tissant, on s'aperçoit que ça s'organise à peu près de la même façon. Mais il y a toujours, quelque part, la cendre qui va titiller hein, sur le repérage. Voilà. Donc, il y a des monographies énormes, comme ça, le travail... le travail de la classification internationale, même si au départ c'était une visée un peu bizarre, hein, c'est très vite rectifié. Et aujourd'hui, on a quand même un outil de classification, alors qui est surtout européenne, mais parfois beaucoup plus large, hein, qui nous permet d'avoir des variantes absolument fabuleuses, des catalogues de variantes. Et là, quand on veut travailler sur du comparatif, c'est quand même des outils très intéressants. Là, aujourd'hui, je dirais, dans des situations migrantes, c'est très intéressant d'aller voir ce que fait Nadine Decour. Hein. Elle va se trouver dans une classe. Moi, je crois qu'on a un séminaire là-dessus sur l'interculturalité et le compte, d'ailleurs. Enfin, un travail, un séminaire, une conférence. Mais elle va se trouver dans une classe, elle se rend compte qu'il y a des petits Roumains, qu'il y a des petits Espagnols, des petits Italiens, il y a des gens qui arrivent du Maghreb. Comment on trouve un axe commun pour que, quelque part, il y ait une reconnaissance réciproque, pas de jugement, hein, mais en même temps une acceptation des points de vue et des représentations différentes. Génial. On trouve un compte que tout le monde connaît au moins dans son socle, on le met au cœur et ça permet vraiment de travailler. Elle arrive à faire travailler des enfants de maternelle là-dessus, alors qu'ils n'ont pas l'écriture, avec du logo. Hein. Elle arrive à faire des fresques absolument superbes. Hein. Donc on en reparlera, mais c'est vraiment, on s'aperçoit que c'est des outils intéressants, ce qui a déjà d'entrée un axe commun. Il y a quelque chose où on reconnaît une pensée commune, une façon de, une représentation commune, une problématique commune. Voilà, donc déjà, ce n'est pas un lieu qui sépare, c'est un lieu qui fait converger des gens sur une matière. Moi, j'avais eu ça dans une classe, hein, avec un jeune Turc, un primo-arrivant qui était là. Bon, on devait travailler sur un compte, on ne savait pas trop lequel encore. On a essayé avec des mots-clés, un autre gamin qui lui traduisait, de voir avec, vous savez, une vingtaine de mots, s'il reconnaissait plus ou moins un conte. Bizarrement, il a reconnu Cendrillon. Enfin, bizarrement. C'est pas étonnant, c'est un des contes les plus répandus. Mais qu'est-ce qui se passe du moment qu'on travaille sur Cendrillon et qu'il sait ce que c'est que Cendrillon et qu'il connaît l'histoire dans sa langue et que c'est un espace qu'il touche, c'est donc ce qu'il va comprendre autour, même si c'est pas sa langue, il va déjà saisir du non-verbal, il va saisir des intentions, il va s'en... et ça va l'aider à aller plus vite, hein, dans la langue. Voilà. Mais on part d'un point commun. Donc, pour vous dire simplement que oui, il y a un travail énorme à faire avec cette matière, encore mal connue. Alors, on s'est un peu perdu là, je crois qu'on était. 8h moins le quart, on arrête par là. Mais merci bien. J'ai amené quelques bouquins qui sont là, si ça peut vous aider. Thank you.